Comissário Europeu, Sr. Dacian Ciolos, seja bem-vindo à Assembleia da República Portuguesa. Está em reunião conjunta entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão dos Assuntos Europeus, a quem saúdo o meu colega, o professor Paulo Mota Pinto, presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Peço desculpa pela ausência do presidente desta comissão, que por motivos de trânsito está retido aqui bem próximo da Assembleia há cerca de uma hora, sem poder cá chegar. Queria-lhe só, Sr. Comissário, dar-lhe nota da presença dos parlamentares portugueses. Estão aqui representados os dos seis grupos parlamentares do Parlamento Português, estão aqui representados cinco: o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS, Partido Popular, o Partido Comunista e o Partido Ecologista, os Verdes. Dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e depois, por uma questão de metodologia, propunha que nós tínhamos previsto fazermos uma intervenção inicial do Sr. Comissário, que irá ser feita, depois uma intervenção dos grupos parlamentares de 30 minutos, respostas do Sr. Comissário de 20 e depois uma segunda ronda dos grupos parlamentares. Por razões de tempo, eu sugeria e pedia aos grupos parlamentares que tivessem atenção e que eliminássemos a segunda ronda, dada a circunstância excepcional do atraso e, obviamente, também por razões de agenda e de horário do Sr. Comissário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Quero limitar-me a dar as boas-vindas ao Sr. Comissário Dacian Ciolos da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Queria dizer-lhe que a Comissão de Assuntos Europeus participa com todo gosto nesta audição. É a Comissão que tem acompanhado as matérias de integração europeia de Portugal aqui na Assembleia da República. Nessa qualidade tem já recebido vários comissários. Recebeu, por exemplo, o comissário Lewandowski o ano passado. Tem já agendada também uma audição com o comissário Maros Sefcovic sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para janeiro próximo. E, portanto, é com muito gosto que nessa série recebemos aqui o Sr. Comissário Dacian Ciolos para mais num tema tão importante como a agricultura e o desenvolvimento rural. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava desde já a palavra ao Sr. Comissário, Sr. Dacian Ciolos, para a sua intervenção inicial de cerca de 10 minutos.
Merci, Monsieur le Président, honorés membres de Parlement portugais, c'est un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir m'adresser à vous directement concernant la réforme d'une politique de plus grande importance pour l'Union européenne. Je le dis souvent, c'est, je pense, la seule politique vraiment communautaire à caractère économique dans l'Union européenne où on aura bientôt une histoire de 50 ans depuis que cette politique fonctionne dans l'Union européenne. Et pour cette politique, on est maintenant dans un moment charnier parce que dans les prochains mois, la prochaine année, on va décider d'une nouvelle réforme profonde de cette politique. C'est pour la première fois dans l'histoire de cette politique qu'on décide d'une réforme si profonde en même temps que les discussions sur le budget de l'Union européenne et donc le budget pour cette politique. C'est aussi pour la première fois que la décision sur la réforme de cette politique sera prise non seulement par le Conseil des ministres de l'Agriculture sur base de la proposition de la Commission, mais ça sera un processus de codécision entre le Conseil des ministres de l'Agriculture et le Parlement européen sur la base de propositions de la Commission. Et c'est aussi pour la première fois qu'on fait cette réforme après l'élargissement de l'Union européenne, le passage de 15 à 27 États membres, ce qui change aussi la donnée, le contexte de l'agriculture européenne. Donc, avec les propositions que la Commission a fait pour réformer cette politique, propositions qui ont été présentées le 12 octobre dernier, on a essayé de prendre en compte ces différents défis, justement, auxquels l'agriculture européenne doit répondre. Je souhaite aussi vous rappeler le fait que cette proposition de réforme que la Commission a mise sur la table des États membres et du Parlement européen le 12 octobre ne vient pas de rien. Elle est le résultat, le fruit d'un débat public qui a été organisé en début de l'année 2010. Elle est aussi le résultat des deux rapports que le Parlement européen a présentés sur cette réforme. Un premier rapport présenté en début 2010, un deuxième rapport présenté cette année suite à la communication que la Commission a présentée en novembre l'année dernière, et suite aussi à plusieurs discussions qu'on a eues avec les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres de l'Agriculture. Et suite à tous ces débats, toutes ces discussions, on s'est bien mis d'accord tout d'abord sur le fait qu'on doit continuer à soutenir de manière consistante et de manière forte la politique agricole commune pour la future période budgétaire 2014-2020. Et la Commission a bien enregistré ce signal et dans les propositions budgétaires qu'elle a mises sur la table en juin cette année, on a fait une proposition de maintenir le budget pour la politique agricole commune au niveau de 2013. Malgré les conditions financières, les conditions budgétaires difficiles dans l'Union européenne, la Commission a considéré que la politique agricole commune doit rester une politique importante au niveau européen et donc avec un budget consistant. On s'est aussi mis d'accord sur les objectifs de cette politique agricole commune pour après 2014, c'est-à-dire assurer la sécurité alimentaire en Europe en termes de quantité des produits alimentaires, de qualité et de la diversité des produits, faire en sorte que l'agriculture européenne contribue à une meilleure gestion des ressources naturelles dans l'Union européenne, je pense ici au sol, à l'eau, à la biodiversité, et aussi un troisième objectif, que l'agriculture européenne doit contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux dans l'Union européenne, parce que l'agriculture européenne, elle occupe plus de 2/3 des territoires européens. L'économie rurale dans beaucoup de régions en Europe est directement ou indirectement liée à l'agriculture, et donc l'agriculture a aussi une contribution au développement équilibré des territoires. Et on a essayé de traduire ces trois objectifs dans les propositions législatives qu'on a mises sur la table le 12 octobre, en proposant de maintenir les paiements directs, mais de redéfinir leur distribution et leur justification avec une composante paiement direct qui est liée à une aide de base aux revenus des agriculteurs, une partie des paiements directs qui est liée à des pratiques agricoles favorables pour la bonne gestion des ressources naturelles, mais une prise en compte aussi des diverses situations et diverses problématiques qu'on a dans l'Union européenne. Et on a traduit ça aussi par le paiement direct, en proposant un schéma simplifié de paiement pour les petites exploitations. Et là, le Portugal sera un des États membres qui pourra pleinement bénéficier de ce schéma simplifié de paiement pour les petits agriculteurs, en réduisant la bureaucratie pour les petits agriculteurs, en les orientant plus vers le travail sur l'exploitation, l'investissement, la modernisation, mais aussi avec la possibilité qu'on donne aux États membres d'augmenter les paiements directs pour les exploitations qui sont dans les zones défavorisées. Et les États membres pourront décider ceci quand ils vont redessiner les paiements directs au niveau national, avec un paiement complémentaire possible pour les jeunes agriculteurs qui s'installent dans les 5 premières années après l'installation. On a considéré qu'à côté des mesures qui sont prévues dans le programme développement rural pour soutenir les jeunes agriculteurs, il est important de donner la possibilité d'avoir un paiement sur l'exploitation augmenté de 25% dans les 5 premières années après l'installation, la période la plus difficile du point de vue économique pour les jeunes agriculteurs. Cette mesure est importante parce que le nombre de jeunes agriculteurs est en baisse dans l'Union européenne, et si on veut continuer à développer l'agriculture européenne, il faut encourager les jeunes à venir dans cette activité. Et puis aussi, avec la possibilité de maintenir pour un certain pourcentage du budget pour le paiement direct, dans le cas du Portugal, ça sera pour 10% de l'enveloppe budgétaire pour le paiement direct, le Portugal pourra donner des aides couplées à la production pour certains types de production et dans certains types de régions qui sont plus sensibles ou qui sont plus importantes du point de vue stratégique pour le Portugal. Donc avec ces paiements couplés, on pourra plus facilement soutenir une production ciblée ou une autre qui est importante, qui est sensible pour le Portugal. On prévoit aussi de maintenir des mesures de gestion de marché pour notamment prévenir des situations de crise sur le marché ou aider les agriculteurs dans des situations de crise. Et là, on propose maintenant des instruments qui permettront à la Commission de réagir vite dans de telles situations de crise. Mais on propose aussi, pour que les mesures des marchés et pour que la gestion des marchés puisse mieux fonctionner, de renforcer l'organisation des producteurs. Et là, on propose, d'après les modèles du secteur fruits et légumes, pour lequel on a un système d'organisation des producteurs solide, d'élargir ce système à tous les secteurs agricoles pour renforcer non seulement le pouvoir de négociation des producteurs sur la chaîne alimentaire, mais aussi encourager toute action d'investissement, de modernisation, d'innovation collective. Pour le programme de développement rural, qui restera un pilier important de la politique agricole commune, à côté des mesures qui existent déjà et qui seront reconduites de manière simplifiée et plus efficace, on a introduit quelques nouvelles mesures qui visent notamment la transmission dans la pratique des résultats de la recherche agricole et de l'innovation pour faire en sorte que l'agriculture puisse augmenter sa productivité, sa production et son efficacité par l'utilisation des résultats de la recherche scientifique. Et là, dans les propositions budgétaires que la Commission a faites, on a renforcé le budget alloué à la recherche agricole de manière spécifique. On a doublé le budget pour la recherche agricole et agroalimentaire par rapport à la période actuelle. Toujours dans le deuxième pilier, dans le programme de développement rural, on propose aux États membres un instrument qui permettra aux agriculteurs de s'organiser pour les systèmes assurantiels, soit créer des fonds mutuels, soit créer des systèmes assurantiels spécifiques pour l'agriculture pour mieux gérer les situations de volatilité des prix et de volatilité des revenus. Ça aussi, c'est un élément nouveau qui permettra aux agriculteurs de créer ces fonds mutuels par une contribution propre. Et quand leurs revenus baissent à cause de baisse de prix sur le marché ou à cause des situations de crise dues aux conditions climatiques, ils pourront mobiliser ces fonds mutuels et les États membres pourront compléter l'argent que les agriculteurs sortiront de ces fonds mutuels avec de l'argent du programme développement rural pour compenser ces pertes que les agriculteurs risquent d'avoir. Et puis d'autres éléments importants qu'on a introduits dans le programme développement rural, ce sont des mesures qui visent à mieux mettre en valeur les produits de qualité, les produits traditionnels, le développement des marchés locaux, des ventes directes, des exploitations, des circuits courts de commercialisation. Parce que on pense à la Commission européenne que l'augmentation des revenus des agriculteurs ne se fera pas seulement par l'augmentation de la production agricole, mais aussi par une meilleure valorisation de la production agricole, des qualités notamment, et la production locale. Et là, il y a une niche de marché qui se développe de plus en plus en Europe. Les consommateurs demandent de plus en plus de produits de qualité. Souvent, les touristes demandent à consommer des produits locaux quand ils se déplacent dans les zones touristiques. Et là, on pense que pour les petites exploitations, il y a un débouché qui est important à valoriser. Et donc, on propose des mesures qui permettront aux États membres de soutenir financièrement les agriculteurs qui vont dans cette direction. Voilà quelques éléments de contenu de cette réforme. Je suis sûr qu'on pourra approfondir ces propositions qui sont nombreuses et qui sont consistantes. Il y a quelques centaines de pages de propositions réglementaires qu'on a mis sur la table, mais je préfère attendre vos questions et je pourrais venir avec plus de précisions peut-être qui visent notamment le Portugal. Merci.
Merci, Monsieur le Commissaire. Vamos então passar agora às inscrições. Começava por aceitar a inscrição do Partido Socialista, de acordo com a praxe parlamentar, o primeiro partido da oposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas. 5 minutos.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Comissário Europeu da Agricultura, da Acenciolos, a sua equipa, por estarem hoje entre nós na Assembleia da República para podermos discutir aquela que é a proposta da reforma da política agrícola comum. E gostava de começar por dizer que consideramos que esta proposta tem aspectos muito interessantes, mas também tem alguns elementos decepcionantes do nosso ponto de vista. É evidente que esta proposta quer ser mais justa na distribuição das ajudas, ela quer ser mais legítima com o princípio do agricultor ativo, que é um princípio que nos parece um bom princípio, e do reforço da agricultura sustentável. Nós consideramos que esta questão da ajuda verde é um aspecto muito importante. Quer ser mais atuante no apoio às pequenas agriculturas e aos jovens agricultores, e isso parece-nos também um aspecto interessante. Quer reforçar o papel dos agricultores na cadeia de valor alimentar e quer ser mais usada na questão da rede de segurança e, particularmente, um aspecto que também notamos como relevante, no apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico, até com um pacote financeiro autónomo àquilo que é o quadro financeiro da política agrícola comum. E eu gostava de começar por aí. Eu gostava de começar por me centrar no orçamento para os próximos 7 anos. E dizer que nós vamos ter um orçamento estável. Um orçamento estável a preços constantes, a preços correntes, próximos dos 60 mil milhões de euros. Bom, com alguma quebra em preços constantes, uma quebra de cerca de 7%. De qualquer maneira, devo reconhecer que é uma vitória do Comissário Europeu da Agricultura esta questão do orçamento. Nós esperávamos, de facto, uma quebra maior no orçamento comunitário da agricultura numa Europa que não quer investir mais no seu orçamento. E, portanto, no quadro das perspectivas financeiras para o próximo quadro, consideramos que, apesar de tudo, o Comissário obteve aqui um bom resultado. Já não nos parece que seja muito positivo olhar para a distribuição das ajudas entre o primeiro e o segundo pilar. Isto é, parece-nos que há uma quebra daquela que era a trajetória da transferência do primeiro para o segundo pilar. Isto é, continua a concentrar-se excessivamente, do nosso ponto de vista, no primeiro pilar, aquilo que é o orçamento da comunidade e, portanto, prevalece aquilo que é a política de rendimento contra a política estrutural. E, portanto, esta era a primeira questão que gostava de ver comentada pelo Sr. Comissário. Em segundo lugar, consideramos também decepcionante a questão da convergência das ajudas. Ela parece-nos limitada e parece-nos lenta. E depois há aqui, digamos, ritmos que são exigidos, por um lado, na convergência entre Estados-membros e aquele que é o ritmo exigido da convergência interna das ajudas. Creio que este é um aspecto que deve ser ponderado pela Comissão, porque não só torna mais justa numa primeira fase e remete a dia para depois de 2019 aquilo que era para nós o essencial, que era encontrar uma linha diretriz para as ajudas diretas em termos europeus, a dia para depois de 2019, faz agora uma aproximação até 2020 e, do nosso ponto de vista, exige a cada Estado-membro um ritmo muito maior naquela que é a convergência interna. E isso vai trazer problemas do ponto de vista, particularmente, dos nossos setores exportadores. É nos setores mais competitivos do país que nós vamos ressentir-nos, porque é aqui, é na diferença das ajudas diretas que existem entre os países produtores, que de facto começa a subversão do princípio da livre concorrência e da concorrência em termos comunitários. Em segundo lugar, embora considerando que o apoio verde é um apoio importante, devia de ser mais ajustado àquilo que são as nossas características. Em terceiro lugar, o setor do leite. O setor do leite é um setor que em Portugal é muito importante e que necessita de ter uma revisão do ponto de vista daquilo que é a proposta do fim das cotas leiteiras por parte da Comissão. Eu queria aproveitar esta oportunidade de estar aqui com o Sr. Comissário para lhe colocar uma questão muito concreta e tem a ver com a ajuda alimentar aos carenciados. No último Conselho aquela que era a proposta da Comissão foi bloqueada por uma minoria de 7 Estados-membros. Eu gostava de saber, Sr. Comissário, se essa questão vai ser retomada pela Comissão a breve trecho, já que tive a preocupação de saber que não está na agenda do próximo Conselho Europeu. Esta é uma questão essencial para Portugal. São 400 mil beneficiários em Portugal da ajuda alimentar que vão ser penalizados se não pudermos contar com aquilo que é a proposta que a Comissão apresentou e que, do nosso ponto de vista, tem todos os ingredientes para termos um bom programa de ajuda alimentar na Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, até por ter cumprido rigorosamente o tempo. É um bom começo. Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, os seus presidentes de Comissão da Agricultura e Mário, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Comissário Europeu da Agricultura, Sr. Scioli. Naturalmente, e como foi dito ainda agora, há aspectos claramente positivos no âmbito desta reforma, desta reforma proposta pela Comissão Europeia. Algumas já foram destacadas. Gostaria de destacar outras, nomeadamente a não renacionalização da PAC, porque isso de alguma maneira foi aventado essa possibilidade e isso caiu. O facto de continuarem a existir os dois pilares, introduzir-se de facto uma maior simplificação dos procedimentos, tentar aumentar a equidade no apoio aos Estados-membros, mas a verdade, enfim, se concordamos com muitos destes princípios, temos que também reconhecer que a PAC, durante estes anos, para Portugal, se permitiu, por um lado, transformar a nossa estrutura fundiária e aumentar, permitir o aumento do investimento na nossa agricultura portuguesa, cerca de 50%, a verdade é que foi dos países sempre mais prejudicado em termos de apoios diretos. E parece-vos, desde já, que a convergência e o aumento dos tais 30% relativamente à média na Europeia é de facto curto relativamente a Portugal. Porquê? Porque efetivamente, como foi dito ainda agora pelo meu colega deputado Miguel Freitas, a verdade é que se exige uma maior convergência interna, muito maior convergência interna do que a convergência que é feita entre os Estados-membros. Isso de facto vai provocar situações de grande desequilíbrio à nossa agricultura portuguesa. Porquê? Porque de facto, neste momento, culturas que estavam e estão com alguma pujança, nomeadamente as hortícolas e frutícolas, vão ter de facto a vida muito mais complicada, vão ter uma necessidade muito maior de se ajustar. Depois, gostaria de dizer, relativamente à questão do greening, que também me parece, do ponto de vista os tais 30% definidos, que são muito ambiciosos para Portugal, de facto podem prejudicar. Portugal tem grandes culturas, de facto, em monocultura, e isso pode não se ajustar a Portugal e ao tipo de cultura que nós temos. E a verdade é que essa dificuldade que vai existir da convergência, do apressada convergência interna, face a uma maior dilatação de prazos em termos europeus vai provocar, de facto, estes grandes equilíbrios. E depois há uma questão que parece-nos também nós muito importante, que tem a ver com a questão de uma eventual diminuição da ajuda. Porquê? Porque o valor, o número de hectares será maior. Provavelmente, sendo maior, portanto, por existir, de facto, essa convergência, isso de facto vai prejudicar as nossas culturas mais competitivas. E, portanto, gostaria que o Sr. Comissário, relativamente a esta matéria, nos pudesse dizer como é que, de facto, vê esta realidade para um país que sempre foi prejudicado. Repito, nós temos uma ajuda de 173 hectares, quando a média da União Europeia são 250, e por este ritmo, de facto, nunca vamos atingir a média da União Europeia, porque, de facto, vai ser muito mais difícil conseguir chegar lá. Depois, gostaria, relativamente ao desenvolvimento rural, e destaco como negativo, nós PSD destacamos como negativo, a exclusão do regadio como medida elegível. É mesmo, eu desculpe-me uma expressão, Sr. Comissário, é inaceitável para Portugal. Sabe perfeitamente o esforço que Portugal tem feito para aumentar as culturas de regadio, nomeadamente a transformação que tem feito em cruzamento numa zona do país, no Alentejo, mas ainda assim estamos muito longe, só temos 15% da superfície agrícola portuguesa que é regada. E, portanto, não ter o regadio como medida elegível, de facto, vai provocar estrangulamentos enormes na nossa agricultura. E, portanto, queria um comentário do Sr. Comissário Europeu relativamente a esta questão. Depois, a questão do leite que foi aqui mencionada. Nós temos cerca de 6 mil produtores de leite, sobretudo no litoral norte, e vamos ter muita dificuldade se não forem adotadas medidas compensatórias para o fim das cotas letárias para 2015. Portanto, gostaria que o Sr. Comissário, também relativamente a esta matéria, se pronunciasse como é que está previsto, de facto, esta possibilidade de compensar os produtores de leite. Para terminar, sendo positivo, de facto, as medidas que estão enunciadas relativamente aos jovens agricultores, há, no entanto, duas dúvidas que eu gostaria que me pudesse esclarecer. Uma, perguntar de forma é que estão interligadas as ajudas aos jovens agricultores entre o primeiro pilar e o segundo pilar. Ou seja, se as definições para a ajuda do segundo pilar são mantidas ao critério dos Estados-membros. Portanto, gostaria que não percebi e gostaria que o Sr. Comissário nos pudesse dizer relativamente a essa matéria. Depois, relativamente ao mecanismo de gestão de risco, que está pensado no âmbito do desenvolvimento rural, prevê-se que os agricultores sejam compensados quando atingidos por danos superiores a 30%. Porém, para ativar seguro, o Estado-membro terá de reconhecer oficialmente a ocorrência de um fenómeno climático adverso. Embora positivo, este mecanismo só será eficaz se for ativado rapidamente. Qual a possibilidade de excluir a necessidade de ser um Estado-membro a reconhecer a calamidade para ser diretamente o produtor ou as organizações de produtores a reconhecê-lo? Portanto, são questões muito concretas, Sr. Comissário. De facto, eu voltava a insistir nesta questão. A necessidade de convergência pode fazer com que o aumento que está estimado das ajudas para Portugal, de facto, não seja uma realidade. E, portanto, se insistirem nisto, de facto, nós que precisamos dar músculo à nossa agricultura portuguesa, vamos perder esse músculo e vamos cada vez nos afastar mais. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigado, deputado Pedro Duarte Ramos, do Partido Social Democrata, também por ter cumprido o seu tempo. A palavra para o deputado Manuel Isaac, do CDS, Partido Popular.
Obrigado, Srs. Presidentes. Boas-vindas ao Sr. Comissário. Sei que o Sr. Comissário visitou esta tarde uma herdade em Cruz para perceber a importância do montado português e a importância que tem para nós. Espero que conseguisse ver e perceber a importância do montado para o nosso país. Queria começar por dizer que para o CDS seria da maior importância que a convergência entre Estados-membros ocorresse em simultâneo com a convergência dentro de cada um dos Estados-membros, adiando esta última para 2028. Caso esta solução não seja conseguida nas negociações, então tentar aumentar a aproximação a 90% da média da União Europeia de 27, o mais possível. Conseguir que seja um terço, por exemplo. O histórico deverá ser anuado ao longo do tempo, pois é esse um dos objetivos desta reforma. Pagamentos base. Concorda com a tendência de uniformização de valor por hectare? Qual a modalidade? O ritmo de ajustamento? Qual deverá ser a ligação ou a não ao histórico? Deverá ser alvo de um fundamento ao nível das explorações em causa para que se tome a opção pela situação mais favorável a Portugal, caso seja necessário ratear, quer a ajuda, seja uniforme ou não. Esta deve ser uniforme. Regime de pequena agricultura. Deverá ser uniforme, igual para todos, ratear, linear do montante disponível. Desenvolvimento rural. A exclusão do regadio, como já aqui foi dito, como medida elegível para o desenvolvimento rural, é muito negativa para Portugal, porque se tratam de novos regadios, ou regadios já existentes, devendo ser endividados todos esforços para eliminar esta exclusão. O apoio a estes investimentos poderá estar sujeito a metas de eficiência e de poupança de água, desde que se concilie também com os ganhos na vertente económica. De facto, temos cerca de 550 mil hectares irrigados, apenas 15% da superfície agrícola útil. O desenvolvimento rural, as infraestruturas de rega devem ser apoiadas, sempre ou só nas novas áreas. Deverá ser mais orientado no reforço das organizações de produtores para ganhos de escala e reforço de capacidade negocial. Falou aqui também nos jovens agricultores. A importância que dá e muito bem, e nós registamos e achamos que é da maior importância. Em relação ao pagamento de base, deverá ser o maior possível, pois será mais simples de aplicar, sendo assim mais eficaz. tentar negociar uma redução de 0% da obrigatoriedade de atribuir aos pagamentos complementares ambientais para aumentar. A aplicação voluntária até 10% dos pagamentos ligados à produção deveria ser mais flexibilizada para salvaguardar possibilidades de ganhos para Portugal deste tipo de opção em determinados setores. A inclusão de um complemento para os jovens é positiva. Em Portugal, apenas 2% dos agricultores têm menos de 35 anos. Quanto às zonas vulneráveis, deveria também ser mais flexibilizada para salvaguardar possibilidades de ganhos para Portugal deste tipo de opção em determinadas regiões e setores. A pequena agricultura é estruturante da economia das zonas rurais portuguesas. O regime simplificado das ajudas às pequenas explorações pode ser positivo. Em Portugal, 55% dos beneficiários têm pagamentos diretos até 600 euros. E ver-se a analisar qual a percentagem adequada à realidade nacional. A pergunta que eu fazia é qual a distribuição dos pagamentos diretos. Pagamentos base, 42%, 58%. Ambiental, 30%. Pagamentos ligados de 0 a 10%, jovens agricultores 2%, zonas vulneráveis 0 a 5% e pequenos agricultores 0 a 10%. Ficava por aqui, obrigado.
Muito obrigado, Manuel Isaac. A palavra agora para o deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. A começar a saudar os Srs. Presidentes e o Sr. Comissário. Sr. Comissário, nas 3 ou 5 reformas da PAC anteriormente verificadas, desde 92, tivemos por vezes pontos de partida auspiciosos. O problema foi a chegada, em geral, representaram desastre para a agricultura portuguesa. Esta, nem sequer à partida, é boa. E, contrariamente ao título do seu artigo hoje no Diário de Notícias, que diz que a reforma da PAC fortalecerá a agricultura portuguesa, esta sexta reforma, pelo andar da carruagem, como dizemos em Portugal, tal como as anteriores, vai continuar a destruir a agricultura portuguesa e não a fortalecer. 5 questões cruciais na avaliação desta reforma, das propostas de reforma que estão em cima da mesa. Soberania alimentar. A não ser que entendamos que, por soberania alimentar, a soberania da União Europeia, mesmo que isso signifique a liquidação da produção num dos seus Estados-membros, isto é, que não haja também soberania ao nível de cada Estado-membro, segurança alimentar, se o Sr. Comissário quiser, como é que isto vai ser conseguido se os senhores liquidam as cotas de produção e os direitos de plantio, por exemplo, no vinho? Se os senhores insistem no absurdo do desligamento das ajudas que tem significado no nosso país a liquidação de produção, concretamente dos cereais. Redistribuição das ajudas ao rendimento. Mais uma vez, as boas intenções afixadas no primeiro documento estão em águas de bacalhau. Propõe-se a redução de 1/3 da desigualdade lá para 2020 e depois, lá para 2028, a igualdade. Isto é, a este prazo, nós podemos dizer que os agricultores e a agricultura portuguesa estarão mortos e não precisam da redistribuição nenhuma de rendimentos. Mesmo as intenções de, e vamos ver em que é que fica, do teto e da modulação das ajudas, o que de facto se trata é de valores mínimos, de tetos e valores mínimos, que não permitirão a redistribuição necessária. Competitividade da agricultura. Se sempre que os decisores políticos ou os eleitos políticos da União Europeia falassem em competitividade, ficassem com a língua escaldada, de certeza que não tornavam a falar em competitividade. Eu gostava que o Sr. Comissário me explicasse como é que um agricultor português que recebe relativamente ao holandês 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, ou relativamente a um alemão que recebe 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, pode ser competitivo com esses agricultores. Gostaria que me explicasse isto, sem falar das ajudas estatais que esses países, sobretudo os federados, caso da Espanha através das suas regiões autónomas, quer da Alemanha através dos seus Landers, continuam a dar ajudas estatais próprias aos seus agricultores. Ou que essas ajudas e as condições de cada país vão permitindo uma discriminação total do ponto de vista do custo dos fatores de produção, da energia, do crédito, dos pesticidas, etc., etc., etc. Regulação da cadeia de valor agroalimentar.
estaria aqui uma questão que poderia ser uma importante novidade nesta reforma da PAC. No fundo, insiste-se com uma velha proposta, nunca concretizada, de apoio às organizações produtoras e organizações interprofissionais. De facto, não há nenhuma regulação, formalização de regulação concreta e eficaz da cadeia agroalimentar com os problemas que estão hoje em cima da mesa. Comércio externo da União Europeia. Muitas das boas intenções sempre anunciadas pela reforma da PAC confrontam-se depois com este problema, que é o comércio externo da União Europeia. Na OMC, igualizando a produção agrícola a qualquer produto industrial e liberalizando, nos acordos bilaterais, concretamente, por exemplo, aquele que está em cima da mesa relativamente ao Mercosul, eu gostaria que se o Comissário nos informasse se vai insistir, a Comissão vai insistir naquilo que está em cima da mesa, em que a agricultura serve de moeda de troca e a agricultura comunitária, segundo os cálculos feitos, penso, pela própria Comissão, vai significar um golpe de 3 a 5 mil milhões de euros. Algumas conclusões que gostaria de tirar, Sr. Comissário. Nenhum dos três desafios que os senhores colocaram no documento PAC Horizonte 2020, segurança alimentar, ambiente e equilíbrio territorial, serão concretizados com os instrumentos da reforma que são anunciados. Gostaria mais de dizer que achamos estranho que uma reforma da PAC que fale da competitividade não fale do preço da produção agrícola, do preço justo, do preço que remunera os custos de produção e que assegura uma margem, uma rentabilidade aos agricultores, sem os quais não há projetos de jovens agricultores que permitam resolver os problemas da nossa agricultura e da agricultura de muitos outros países da União Europeia. Gostaria, para finalizar, de colocar um conjunto de questões concretas. Leite. Vai haver ou não recuo da extinção das cotas leiteiras? Por que não se suspendem, pelo menos, os aumentos das cotas leiteiras que estão em curso até ao fim desta reforma da PAC? Gostaria de saber se já foram aplicadas as multas aos países, como a Holanda, a Dinamarca e a Áustria, que em 2009, 2010 e 2011 ultrapassaram as cotas leiteiras. Vinho. Gostaria de saber se os senhores vão recuar, até face ao apelo da AREV, a Assembleia das Regiões Europeias Vitícolas, relativamente à extinção dos direitos de plantio. Açúcar. Julga possível, mesmo antes de 2015, que Portugal retome a produção de beterraba sacarina? Floresta. Gostaria de perceber melhor por que razão é que os senhores vão apoiar as espécies de crescimento rápido, naturalmente, discriminando ainda mais as espécies autóctones de crescimento lento.
Sr. Deputado Agostinho, eu vou terminar, até mesmo terminar, já passou o setor.
Apenas uma questão. Ajudas aos pequenos agricultores. O Sr. Comissário tem a ideia de que, com o número de pequenos agricultores que Portugal tem, o teto do envelope nacional de 10% pode significar que os pequenos agricultores portugueses também aqui fiquem os mais discriminados da União Europeia, recebendo o mínimo possível neste tipo de ajuda.
Muito obrigado.
Gostaria apenas de dizer uma coisa, de perceber melhor por que razão a simplificação da PAC, que mais uma vez é anunciada, e depois o que se propõe é uma maior complexidade administrativa e burocrática, inclusive com as regras da chamada ecocondicionalidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Deputado agora, a palavra agora para o senhor deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e o Sr. Comissário. Sr. Comissário, a volatilidade dos preços nos mercados, a que o Sr. Comissário se refere num artigo de opinião publicado hoje num diário português, parece-nos a nós um problema de falta de regulação pública desses mesmos mercados. E eu creio que, apesar desta constatação, que é clara para todos, a Comissão não só não apresenta nenhuma proposta de reforço no que diz respeito aos instrumentos públicos de regulação do mercado e da produção, como ainda mantém a eliminação de alguns deles, como seja o fim das cotas leiteiras e dos direitos de plantação da vinha. E eu gostaria que o Sr. Comissário nos dissesse se não lhe parece que, havendo soluções políticas para o problema da volatilidade, se essas soluções não deveriam, de facto, ser adotadas, ao invés de serem ou de se recorrer ao erário público para pagar as suas consequências, como, aliás, está previsto. Uma segunda questão. A Comissão diz que quer favorecer as pequenas explorações que foram sempre esquecidas nas reformas anteriores. mas depois coloca um plafond para a ajuda às pequenas explorações de 1.000 euros e para as grandes explorações estabelece um plafond de 300 mil euros, ou seja, 300, estamos a falar de 300 vezes superior. Não lhe parece, Sr. Comissário, que se está a valorizar exclusivamente o papel económico das grandes explorações e a esquecer completamente o papel social e ambiental das pequenas? Será que a importância de uma grande exploração representa 300 vezes mais para a sociedade do que a importância que representa uma pequena exploração? Por fim, a Comissão assume a questão do emprego como sendo uma das suas prioridades, e a nosso ver bem, enquanto prioridade, mas depois, quando nós vamos ver os critérios base da redistribuição do pagamento direto, dos pagamentos diretos em 2014, o que nós vemos é que o único fator que aparece é a área. E, portanto, Sr. Comissário, não lhe parece que estamos perante uma enorme incoerência entre aquilo que se anuncia e aquilo que se pratica, entre as intenções e aquilo que depois se faz? Isto é um bocado como se diz em Portugal, de boas intenções está o inferno cheio. Muito obrigado.
Muito obrigado, José Luís Ferreira. Senhor Comissário, tenho aqui um conjunto de perguntas e o nosso arranjo também já caiu. Tenho aqui um conjunto de perguntas que lhe já permitirá explicar melhor quer as propostas, quer dar resposta a algumas das preocupações aqui manifestadas pelos senhores deputados dos diferentes partidos. Senhor Comissário, tenha a palavra.
Merci. Oui, je vais essayer de répondre à toutes les questions avec les éléments que j'ai. Mais tout d'abord, je souhaite vous rappeler une chose. La Commission n'est pas celle qui fait tout au niveau européen. La Commission fait des propositions législatives et ces propositions seront appliquées dans la mesure où elles seront décidées par le Conseil et par le Parlement. Donc moi, je peux parler de ce que la Commission a proposé. Donc, sur la question de distribution entre le premier et le deuxième pilier que M. Freitas avait soulevé, on a mis la possibilité pour les États membres qui souhaitent renforcer le deuxième pilier de pouvoir le faire avec 10% en plus de premier pilier au deuxième pilier. Déjà, pour renforcer le deuxième pilier, on a intégré dès le départ toute la modulation qui était faite de manière croissante d'une année sur l'autre dans la période actuelle. À partir de 2014, toute cette modulation rentre et rentre automatiquement dans le budget du deuxième pilier. Et en plus, on donne la possibilité aux États membres qui le souhaitent de transférer 10% du premier pilier au deuxième pilier. Donc, les États membres qui le souhaitent pourront le faire. Mais là aussi, c'est un équilibre à trouver par les États membres entre le souhait d'avoir les paiements directs élevés et le souhait d'avoir le deuxième pilier renforcé. Mais cette possibilité existe. Bon, sur la convergence des aides, il y a plusieurs d'entre vous qui ont soulevé cette question. D'abord, la convergence entre les États membres. On est entre des hommes politiques et vous le savez souvent que quelqu'un l'avait dit d'ailleurs, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on peut faire, il y a une différence. Et pourquoi je souligne ce fait quand on parle de la convergence? Parce que si on aurait eu un budget de la PAC déjà décidé au moment où on propose la réforme, on aurait pu décider entre nous, la Commission, le ministre de l'Agriculture et le Parlement, la Commission d'Agriculture, de décider comment on partage les gâteaux qu'on a déjà décidés pour la PAC. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je l'ai souligné dès le départ que c'est pour la première fois que la réforme de la PAC va en parallèle avec la décision sur le budget. Et il faut voir ce qui est faisable politiquement, parce qu'on peut proposer une convergence plus forte, ça veut dire un transfert plus fort, plus accéléré des États membres contributeurs nets au budget européen vers les États membres bénéficiaires nets. Mais est-ce que cette proposition passera au Conseil? Vous savez que pour le budget, il faut une unanimité et il faut aussi que le Parlement soit d'accord. Et on ne décide pas que du budget de la PAC, il y a aussi le budget de la politique de cohésion, il y a aussi le budget de la recherche, le Portugal aussi est bénéficiaire du budget de la PAC, du budget de la cohésion, il y a d'autres États membres qui sont bénéficiaires que du budget de la PAC et non pas pour le budget de la cohésion. Et donc, là, il faut trouver un équilibre politique de ce qui est faisable. Entre nous, parce qu'on est entre nous en politique, je peux vous dire que mon intention au départ, c'était de proposer, et c'est ce que j'ai proposé au départ, de amener tous les États membres à au moins 90% de la moyenne communautaire et réduire proportionnellement les aides aux pays qui ont plus de 110% de la moyenne communautaire. C'était ça la proposition initiale, la variante de travail que j'ai proposée au collège. Et suite aux discussions au collège et aux remarques que le commissaire au budget l'a fait, et il est venu ici vous parler aussi des difficultés de négocier le budget sans doute, il a proposé d'imposer cette limite pour ne pas affecter trop les pays contributeurs nets, pour ne pas être dans la situation où ces pays contributeurs nets au budget européen seraient plus avantagés à réduire le budget total de l'Union européenne et compenser éventuellement leurs agriculteurs par cette perte de budget du budget national. Mais là, on aurait eu une perte de tous les paiements directs au niveau européen. Donc, la première chose, mon premier objectif, c'était de sauver le budget de la politique agricole commune et proposer, ou accepter plutôt ce qui m'a été proposé par le commissaire au budget, un système, un dispositif de convergence qui est plus réaliste politique. Si le Conseil et le Parlement considèrent qu'on peut faire plus et qu'on peut accélérer ce processus de convergence, c'est pas moi qui va m'opposer. Mais là, il faut mettre en balance le budget de la PAC et le budget de la cohésion, les autres composantes du budget européen et la faisabilité politique dans des conditions des difficultés économiques et des difficultés budgétaires pour les États membres, notamment les États membres contributeurs nets au budget. Convergence interne maintenant. Vous dites, si la convergence entre les États membres ne va pas assez vite, pourquoi la convergence interne aurait plus vite? Mais pour la convergence interne, l'objectif de la Commission dans ses propositions n'est pas d'arriver à une égalisation mathématique des paiements directs à l'hectare partout dans un État membre. L'État membre aura la possibilité de définir des régions dans lesquelles elles vont proposer des paiements équilibrés et des paiements convergents. Et le Portugal pourra définir une seule région, c'est-à-dire que tous les pays aura le même niveau de paiement, ou définir deux régions, ou trois régions, ou quatre, en fonction des spécificités de production. Mais dans une région homogène, où les exploitations sont dans les mêmes conditions de production, les mêmes conditions agroclimatiques, pédologiques, les mêmes catégories à peu près de production et de types d'exploitation, il sera difficile, à partir de 2009, à justifier le fait qu'on a toujours de fortes différences alors que les conditions de production sont similaires. Mais c'est ça l'objectif. C'est pas une convergence mathématique, automatique, bureaucratique. Mais c'est une convergence qui donne aux agriculteurs qui travaillent dans les mêmes conditions au sein d'une région les mêmes possibilités de soutien. Voilà ça pour comprendre que la convergence interne n'est pas forcément une égalisation mathématique. Sur la question du verdissement, vous dites, bon, des mesures plus flexibles. Vous savez, on a analysé deux options. L'option d'avoir des mesures applicables partout dans l'Union européenne de la même manière, ou l'option de proposer aux États membres une liste des mesures possibles et que les États membres choisissent les mesures adaptées. Et on a préféré le choix de trois mesures applicables partout dans l'Union européenne. Pourquoi? Tout d'abord parce que si on aurait des mesures différentes d'un État membre à l'autre pour le premier pilier, on risque d'avoir après les critiques de certains agriculteurs, mais pourquoi mon État membre a choisi une mesure qui est plus compliquée à appliquer que celle appliquée dans l'autre État membre, alors que vous avez dit que dans le premier pilier, on doit avoir une approche européenne, une approche communautaire. Le deuxième désavantage de choisir un menu de mesures, c'est que les mesures qui sont dans le verdissement au premier pilier ne peuvent plus être soutenues financièrement dans les mesures agro-environnementales au deuxième pilier. Et donc là, on aurait été dans la situation où une mesure agro-environnementale aurait été au premier pilier dans certains États membres et dans d'autres États membres aurait été au deuxième pilier avec la possibilité d'un paiement complémentaire dans le deuxième pilier. Donc là encore, on aurait eu un décalage de traitement entre les agriculteurs. Et on a finalement choisi trois mesures qui peuvent être appliquées partout dans l'Union européenne, bien sûr, de manière adaptée. Et on a prévu cette possibilité d'adaptation. Le maintien des pâturages permanents. Là où il y a des pâturages permanents, on le maintient. C'est pas quelque chose qui est compliqué. La diversification des cultures. Ça veut dire quoi? C'est que dans une exploitation, sur la même exploitation, on doit avoir au moins trois cultures, dont une culture ne peut pas dépasser 70% de l'exploitation et une autre culture doit avoir au minimum 5%. Ça aussi, je pense que dans beaucoup d'exploitations, il y a des exploitations qui font la monoculture. Et là, la monoculture, c'est clair, épuise le sol et épuise aussi la biodiversité. Mais cette diversification d'avoir trois cultures sur une exploitation, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué et qui peut être appliqué aussi de Finlande jusqu'au Portugal. Le fait de maintenir aussi un pourcentage de l'exploitation, nous on a proposé 7%, c'est sans doute un montant qui va être discuté, de ce qu'on appelle infrastructure écologique. Là aussi, je souhaite clarifier une chose. J'ai entendu dans la presse ces jours derniers que la Commission redemande la jachère, c'est-à-dire de sortir des cultures de terres arables pour les bloquer pour l'environnement. C'est pas ça qu'on propose. On propose que des parties de l'exploitation qui sont moins fertiles, des bandes enherbées, des bandes avec les arbres qui sont déjà sur certains pâturages ou sur des exploitations, qu'on puisse le maintenir et ne pas provoquer, stimuler l'agriculteur à éliminer ces types de végétation parce que actuellement, on est dans la situation aberrante où tout ce type de végétation ne sont pas éligibles. Les terres qui sont couvertes de ce type de végétation ne sont pas éligibles. Donc les agriculteurs ont la tendance de couper les arbres, d'éliminer ces bandes enherbées. Ben, maintenant, on les encourage à le maintenir et on les intègre comme surface éligible. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est facile à appliquer. Mais une exploitation qui a seulement des pâturages permanents, il est évident qu'elle n'aura pas besoin de faire la diversification des cultures, ni de maintenir cette infrastructure écologique. Une exploitation qui a que de terres arables n'aura pas à appliquer la mesure de maintien des pâturages permanents parce qu'elle n'a pas de pâturages permanents. Donc ce sont des mesures qui peuvent être adaptées dans toutes les situations. Les exploitations qui ont des cultures permanentes, des arbres fruitiers par exemple, pourront aussi appliquer, elles n'auront pas la diversification des cultures à faire parce que pour les cultures permanentes, il n'y a pas besoin de faire la rotation, donc on a les mêmes cultures, mais elles auront juste à maintenir ces 7% d'infrastructures écologiques qui seront assez faciles à appliquer parce que soit les bords de parcelles qui peuvent être maintenus en herbe, soit souvent entre les rangs des arbres, on peut maintenir aussi des bandes en herbe. Donc ce sont des mesures qui ne sont pas si compliquées à appliquer, mais qui donnent des résultats, de bons résultats dans la fixation de carbone, dans la qualité des sols et la gestion de la biodiversité. Voilà, j'étais un peu plus long, mais je souhaitais vous expliquer ce qu'on a proposé et éliminer toutes les mythes qui commencent à apparaître des fois dans la presse. Sur le quota, sur le lait et les droits de plantation pour la vigne, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont soulevé aussi ces sujets. Et j'essaie de dire aussi aux représentants du Parti communiste, qui étaient très véhéments d'ailleurs, et demandaient est-ce que la Commission va revenir sur sa décision. C'est pas une décision de la Commission. C'était une proposition de la Commission qui a été faite en 2007, en 2008, et après c'était une décision de Conseil de ministres de l'Agriculture. L'élimination de quotas, c'est maintenant un élément intégré d'un règlement du Conseil. Donc maintenant, c'est pas à la Commission de demander de revenir sur cette décision, c'est au Conseil de ministres de le demander. C'est à eux de le faire, parce que c'est eux qui l'ont décidé déjà d'éliminer les quotas. La Commission est venue justement avec une proposition législative qu'on a mise sur la table du Conseil l'année dernière pour renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans le secteur laitier pour justement les aider à gérer cette situation de sortie de quotas. Les organisations de producteurs dans le secteur laitier pourront négocier des contrats qui vont prévoir le prix et les quantités pour une période de plusieurs années. C'est le seul secteur qui aura la possibilité, cette dérogation des règles de concurrence, et qui permettront de négocier des prix et des contrats pour assurer justement une certaine stabilité de leur revenus. Mais revenir au quota quand nos marchés sont ouverts maintenant, je ne sais pas si c'est ça qui va régler le problème. Parce que le prix garanti et les quotas de production auraient pu résoudre notre problème, mais quand les frontières européennes étaient fermées et quand on n'avait pas des produits qui venaient de l'extérieur et quand la production européenne était très peu orientée vers l'extérieur. Mais vous le savez maintenant que l'Union européenne est aussi un des premiers exportateurs de produits alimentaires au monde, parce que notre secteur agroalimentaire s'est beaucoup développé. Et s'il y a de l'emploi dans le secteur agricole, y compris au Portugal, et je sais que le Portugal exporte aussi beaucoup de produits agroalimentaires de qualité, revenir au système des quotas et des prix garantis, ça veut dire aussi revenir à la protection des frontières. Bon, est-ce que il y a une volonté politique en Europe pour revenir à la protection des frontières et donc à des prix garantis? Parce que sans protection à la frontière, un prix garanti et le quota, ça sert à rien. Donc, pour le lait, la décision a été prise par le Conseil. Pour le droit de plantation, c'est pareil. Décision a été prise par le Conseil. Mais pour le droit de plantation, la Commission va présenter l'année prochaine un rapport au Parlement et au Conseil sur une analyse sur la mise en œuvre de la dernière réforme sur le secteur vin. Et moi, je suis prêt à se comprendre en discussion cette question du droit de plantation et voir si pour certains types de vins, de qualité notamment, dans certaines régions, s'il y a un lien entre la qualité du vin et le droit de plantation, peut-être qu'on peut revenir sur cette question. Donc moi, je suis ouvert à discuter cette question lors de la présentation de ces rapports par la Commission l'année prochaine. Pour l'aide plus démunie, pour vous répondre très rapidement, la Commission a montré sa disponibilité de faire toutes les adaptations à sa proposition législative, toute adaptation qui pourrait aider à sortir de cette minorité de blocage. Et on a fait tous les efforts. On a revu la base juridique. On a décidé de transférer le budget de la politique agricole commune à la politique de cohésion sociale pour répondre aux attentes de ces pays. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un manque de volonté politique dans ces 7 États membres qui n'assument pas leur responsabilité politique de la continuation de ces programmes. En tout cas, je sais que la présidence polonaise va encore insister jusqu'à la fin de l'année pour cette mesure. Je ne sais pas si la présidence danoise va faire la même chose. Mais la Commission reste toujours ouverte à tout compromis qui permettra de débloquer le programme. Bon, sur la question de convergence et de verdissement, j'ai répondu. Sur les surfaces éligibles, le fait que si les surfaces éligibles augmentent, il y aura une diminution d'aide possible. Mais là aussi, c'est un choix de l'État membre. Je souhaite aussi vous rappeler que au Portugal, il y aura une augmentation des aides directes à l'hectare. Le Portugal fait partie des 7 États membres qui verront son budget augmenter, parce qu'il n'y a que 7 États membres qui auront, par cette convergence entre les États membres, le budget augmenté. Donc finalement, je ne sais pas si le paiement à l'hectare va baisser beaucoup, même si les surfaces éligibles vont augmenter, parce qu'il y aura aussi une augmentation du paiement à l'hectare. Sur la mesure irrigation, la Commission soutient financièrement des investissements dans le domaine d'irrigation qui mènent actuellement à une réduction de coûts énergétiques ou de l'utilisation de l'eau. Ça, c'était une décision de financer l'irrigation seulement dans la situation où il y a un effet bénéfique pour l'environnement ou pour la consommation de l'énergie. On aura les discussions sur la base des propositions qu'on a mises sur la table et on verra s'il y a des adaptations à faire. J'ai pris note de cette remarque que la ministre de l'Agriculture portugaise m'a faite aussi aujourd'hui. Et au cours des discussions, on verra ce qui peut être fait. Voilà, les aides aux jeunes, entre le premier et le deuxième pilier, c'est des dispositifs qui sont complémentaires. C'est-à-dire, le soutien au deuxième pilier avec une prime d'installation qui peut aller actuellement jusqu'à 70 000 euros ou des aides bonifiées pour les prêts, des prêts à la banque bonifiés, pourront être maintenus et on va demander aux États membres de l'introduire de manière obligatoire dans le programme de développement rural. Et cette aide complémentaire au paiement direct, au droit de paiement par exploitation dans les 5 premières années viendront en plus. Parce qu'on considère que dans les 5 premières années, les jeunes agriculteurs ont besoin d'un soutien financier plus consistant parce qu'ils font un effort d'investissement plus important, ils font des crédits à la banque et les aides directes sont souvent une garantie aussi pour la banque pour un crédit. Donc c'est pour ça que des aides directes augmentées les 5 premières années pourront renforcer, on pense, ces dispositifs d'installation à côté de ce qui est déjà prévu dans le deuxième pilier et qui sera maintenu. Bon, sur la question de, sur l'instrument de gestion de risque et la mise en œuvre rapide, mais cet instrument de gestion de risque au deuxième pilier, c'est justement c'est pour ça qu'on l'a proposé au deuxième pilier, pour pouvoir utiliser le caractère pluriannuel du budget dans le programme de développement rural. Parce que les agriculteurs vont mettre de côté de l'argent par une cotisation quand les prix sont bons, et quand il y a une chute de prix ou de revenus, ils pourront mobiliser l'argent de ces fonds mutuels et les États membres viendront avec un paiement complémentaire à cette prime de ces fonds mutuels du programme de développement rural. Et donc, cette prime sera proportionnelle à ce que le fonds mutuel va accorder. Pour vous donner un exemple, si le fonds mutuel va donner 1 euro aux agriculteurs, ou 100 euros aux agriculteurs comme remboursement, il y aura jusqu'à 60 euros ou 70 euros en plus qui viendront de cette contribution communautaire à travers le programme développement rural. Donc ça pourra être mobilisé rapidement une fois que le fonds mutuel est constitué et que le constat de perte de production ou de perte de revenus est fait. Bon, pour la convergence interne, uniformisation par hectare, je l'ai expliqué que ce n'est pas le cas, une uniformisation mathématique. Bon, il y a beaucoup de fonds spécifiques, vous avez fait cette remarque au premier pilier, 10%, 5% pour les jeunes agriculteurs, 10% pour les petites exploitations, pour les zones défavorisées. Mais tout ça, il faut les comprendre non pas comme une obligation pour les États membres. C'est plutôt des opportunités qu'on donne aux États membres. Et les États membres ont demandé à la Commission de la flexibilité d'utiliser les paiements directs. Mais avec tous ces dispositifs, on donne aux États membres la flexibilité pour traiter de manière spécifique, s'ils le souhaitent, les zones défavorisées, les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les paiements couplés pour certaines productions. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité que les États membres peuvent utiliser quand ils ont besoin. Parce que, vu la forte diversité des agricultures dans l'Union européenne, on a considéré qu'il faut donner cette flexibilité aux États membres pour pouvoir mieux prendre en compte la spécificité de l'agriculture locale. Voilà, donc sur monsieur le représentant du parti communiste, je pense aussi avoir répondu à beaucoup de questions. Bon, souveraineté alimentaire, oui, avec le maintien des aides directes aux agriculteurs, de le soutien aux revenus, on pense qu'on contribue aussi à la souveraineté alimentaire parce qu'on maintient en production des exploitations agricoles qui, si on le laisserait seulement aux revenus qu'ils peuvent gérer du marché, il serait pas viable. Comme je vous ai dit, la gestion par le prix et par le système des quotas, tant que nos frontières sont plus ouvertes, c'est pas des instruments efficaces. Et je peux vous assurer que c'est pas l'agriculture qui va payer la facture de l'accord Mercosur ou de n'importe quel autre accord. Moi, j'ai toujours présenté une position qui est très claire. Dans toutes ces négociations, il faut voir nos intérêts offensifs et nos intérêts défensifs. Parce que chaque fois on a des intérêts offensifs, on a des intérêts défensifs. Et je peux vous assurer que les intérêts défensifs, on va les suivre très attentivement. Bon, pour la différence des aides entre le Portugal et les Pays-Bas, je vous ai expliqué. Si le Conseil de ministre des Finances est en mesure de prendre plus de Pays-Bas pour donner plus au Portugal, c'est pas moi qui va m'opposer. Mais il faut prendre en compte aussi la position de certains États membres qui sont contributeurs nets au budget et d'autres qui sont bénéficiaires nets. Et il faut voir politiquement jusqu'où on peut aller. Bon, sur la chaîne alimentaire, on a proposé le renforcement des organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles, mais on ne peut pas obliger les agriculteurs à s'organiser. On peut les inciter, et c'est ce qu'on a fait avec les propositions qu'on a mises sur la table. Pour les forêts, là aussi, vous savez, les États membres ont beaucoup de choix à choisir. Quel type d'essence forestière souhaite à planter. Mais d'ailleurs, la Commission a pris une position assez ferme sur le type d'arbres et l'impact sur l'environnement de ce type d'arbres qui sont plantés avec les aides de deuxième pilier. Mais là aussi, les États membres ont une flexibilité qui est assez grande. Et sur la simplification, vous dites que c'est en fait un avantage, mais qui est complexe parce que ça complexifie l'éco-conditionnalité. L'éco-conditionnalité, on l'a simplifiée avec cette réforme, parce qu'on a réduit le nombre de mesures d'éco-conditionnalité de 15 à 8 seulement. Mais ce qu'on a proposé, ces trois mesures de verdissement, ce n'est pas de l'éco-conditionnalité, ça c'est des pratiques agricoles. Et votre collègue qui est à côté du Parti de Verts écologiste, je ne sais pas si lui, il a le même avis sur l'utilité de ces mesures. Et moi, je pense que ces pratiques agricoles qui doivent être bénéfiques pour l'environnement peuvent être très bien gérées en parallèle avec l'objectif d'assurer une bonne production agricole. Parce que si on veut développer notre production agricole sans prendre en compte la qualité du sol et de la biodiversité, ce n'est pas une productivité qui est développée sur le long terme. Bon, vous dites qu'il n'y a aucune proposition pour renforcer la production, mais si, le maintien des aides directes, l'organisation des producteurs, c'est pour justement renforcer la production et surtout pour une meilleure valorisation de la production. Parce que le gros problème que les agriculteurs ont souvent dans l'Union européenne, ce n'est pas les niveaux de production, c'est surtout la valeur ajoutée que les agriculteurs arrivent à dégager de la vente de cette production sur le marché. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on renforce le pouvoir des négociations des agriculteurs, et c'est pour ça qu'on a proposé d'élargir cette mesure d'organisation des producteurs à l'ensemble des secteurs, et c'est pour ça qu'on a proposé aussi toutes les mesures qui visent les circuits courts, les produits de qualité, pour que les agriculteurs puissent prendre plus de valeur ajoutée. Mais le fait qu'on a maintenu le budget pour le paiement direct, alors que vous vous rappelez qu'il y a un an et demi, on discutait d'une réduction de budget de la PAC de 30-40%, vu la pression qu'il y avait sur le budget européen. Le fait qu'on a maintenu le budget pour le paiement direct, c'est justement pour encourager les agriculteurs à continuer à produire. Et je n'ai pas parlé d'une mesure qui, à mon avis, sera importante pour augmenter la productivité dans l'Union européenne, c'est le rôle de la recherche et de l'innovation. Parce que si on veut augmenter la production maintenant, il faut le faire de manière durable en utilisant le résultat de la recherche et l'innovation. Et là, on a proposé un budget consistant pour qu'on puisse utiliser justement le résultat de la recherche pour rendre plus efficace la production agricole dans l'avenir. Voilà. Quant à l'emploi, le fait qu'on maintienne les agriculteurs dans les zones défavorisées, c'est pour maintenir l'emploi dans les zones dans lesquelles, sans une aide complémentaire, il n'y aura pas de la production agricole. Le fait que pour les grandes exploitations, et il y a souvent dans l'Union européenne des grandes exploitations qui emploient beaucoup du monde. Il y a des exploitations de quelques centaines d'hectares dans certains pays dans l'Union européenne qui emploient 20, 30, 40, jusqu'à 70 d'employeurs sur l'exploitation. Et le fait qu'on a lié le plafonnement des aides au maintien de l'emploi, c'est aussi pour maintenir l'emploi dans ces exploitations qui, sinon, ne paieraient pas attention à ça. Le fait qu'on on a aussi ces paiements pour les petites exploitations, pour maintenir ces petites exploitations, c'est aussi pour maintenir l'emploi dans l'agriculture. Donc je pense qu'il y a une attention à l'emploi dans l'agriculture, peut-être plus que dans n'importe quelle autre réforme qu'on a eue dans la politique agricole commune jusqu'à présent. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Enchanté de vous voir, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Sr. Comissário Dacian Ciolos. Em nome da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República e em nome da Comissão de Assuntos Europeus, quero lhe agradecer a sua presença neste Parlamento. Foi um dia complicado para todos nós. Fiquei hoje com a prova provada de que o Sr. Comissário, tendo saído de Coruche, que é um concelho no meu distrito, consegue chegar mais depressa ao Parlamento do que eu próprio, estando dentro da cidade, e que, portanto, que a mobilidade hoje em dia dentro da cidade é muitas vezes mais difícil de se fazer do que de alguns concelhos vizinhos da grande cidade. Queria lhe agradecer, como já referi, e manifestar a nossa total disponibilidade para que esta primeira oportunidade, esta primeira ocasião de trabalho conjunto possa ter frutos num futuro próximo e para que, da nossa parte, naquilo que for necessário, o Sr. Comissário tenha a bondade de dispor daquilo que for necessário da parte do Parlamento Português e, em concreto, destas duas comissões. Agradeço-lhe por isso, para terminar esta oportunidade, e despeço-me com um até breve. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.